de retour pour un nouvel épisode du CQFR. Il n'y avait pas de match de play-in ou de play-off la nuit dernière. Par contre, il y en a la nuit qui vient. Donc, il y a pas mal de choses à discuter. Je suis rejoint par Shai Mamou, que vous retrouvez tous les matins, même en solo parfois, quand il faut assurer pour toute l'équipe. Shai, comment ça va? T'as pu dormir un petit peu cette nuit, du coup?
Ouais. Franchement, ça, bah, quand il n'y a pas de match, c'est quasiment la grasse mat, on va dire. C'est l'occasion de récupérer des forces avant les prochaines échéances.
C'était la dernière petite fenêtre pour toi. Pas de playoff NBA, pas de playoff, pas encore la WNBA, plus de saison
Ouais, et
NCAA.
pourtant,
C'était le petit moment.
sauf que l'OM est allé en demi-finale, est en demi-finale Ligue des Champions, peut-être pas non plus de Ligue Europa hier, et qui sont allés au penalty, donc je ne suis pas non plus couché très très tôt.
On pourra reparler de l'OM tout à l'heure, vous verrez pourquoi. On abordera le sujet de l'Olympique de Marseille. Allez, commençons par quand même la grosse news qui est tombée hier, celle à laquelle, enfin, qu'on attendait. C'était concerne l'état de santé de Jimmy Butler. Jimmy Butler, si vous l'avez vu, donc il s'est blessé dans le premier match du play-in perdu face aux Sixers, dans un match vraiment âpre qui s'est joué jusqu'aux dernières secondes. Fin de premier carton, il part au lay-up. Il y a Kelly Oubre qui lui rentre dedans. Jimmy Butler qui se tord de douleur au sol, qui finalement se relève. Fini le match, et même alors au niveau de l'adresse, non, adresse catastrophique sur la deuxième mi-temps. Par contre, il fait encore des interceptions, il tient sa place, il prend des rebonds, et finalement, voilà, on avait peur qu'il y ait une blessure au niveau des ligaments externes du genou, et il semblerait que ce soit ça, pas vrai, Shai?
Ouais, c'est ça, c'est ce que sous-entendait déjà Shams Charania juste après le match. En direct sur le match, tu te dis bon, c'est bon, ça a l'air d'aller, c'est peut-être un coup, quelque chose, ça l'a pas empêché de continuer. Malheureusement, direct après, on a cette info sur la blessure au niveau du MCL, donc ligament collatéral médian un peu. Donc c'est, en tous les cas, c'est sérieux. Et puis malheureusement, ça a été confirmé. Le Heat a confirmé que la blessure était suffisamment sérieuse pour l'éloigner plusieurs semaines. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Malheureusement, ça veut dire pas de play-in contre Chicago. Et puis si qualification il y a, probablement pas de qualification de participation derrière au premier tour des playoffs. Donc c'est triste et décevant. On attendait le Heat, on avait ce débat dans la rédac, est-ce qu'ils vont switcher entre la saison régulière et les playoffs. Butler était évidemment la raison majeure pour laquelle on croyait ça, parce que c'est leur leader, leur franchise player. Malheureusement, tout est parti de travers pour Miami, et dans la lignée de cette saison régulière médiocre, il n'y a pas eu la réussite, les fuites. Il y a peut-être d'autres facteurs qu'on pourrait évoquer, mais c'est évidemment extrêmement triste. Alors on en parlera aussi. Je pense que Miami peut passer Chicago, mais derrière, sans Jimmy Butler, il n'y a malheureusement aucun espoir.
Ouais, le gros problème de Miami cette saison, ça a vraiment été les blessures. C'était encore pire que les années précédentes, parce que même là, sur ce premier match de play-in, ils étaient privés de Terry Rozier, blessé à la nuque, et de Duncan Robinson, qui venait tout juste d'être réactivé avec ses problèmes de dos, mais finalement, il n'est même pas rentré sur le terrain. Donc là, c'est même pas simplement l'absence uniquement de Jimmy Butler à laquelle lui doit faire face. On ne sait pas si Terry Rozier et Duncan Robinson pourront jouer ce soir.
Rozier est forfait, quoi qu'il arrive.
Ah bah voilà. Autant pour moi, Rosier est déjà forfait. Donc ça fait vraiment beaucoup trop de choses pour Miami. Il y a une question qui nous a été posée, enfin pas une question, c'est vous avez dû voir dans notre nouvelle version de Basket Session, maintenant vous pouvez créer vous-même vos sessions avec des sujets un petit peu comme sur Reddit. Il y avait Geoffrey qui a créé une session qui s'appelle Votre avis sur la blessure de Butler, et sa question c'était est-ce que cette blessure serait arrivée si le Heat était déjà qualifié en play-off. C'est vrai que là, on voit effectivement, je me suis posé un petit peu la même question, dans le sens où toute l'importance d'être qualifié directement et de ne pas avoir à passer par ces matchs supplémentaires.
Ouais, alors il y a ça, c'est logique, on peut se dire que la répétition des efforts, l'intensité physique, tout ça, mais j'ai regardé les stats de Jimmy Butler en termes de participation. Chaque année, il y a quand même beaucoup de blessures, c'est quelque chose qu'on a tendance peut-être à mettre de côté parce qu'on l'aime un peu aveuglément, on sait qu'il arrive même diminué à faire des prestations. Enfin, on a tous en tête les deux campagnes de play-off relativement récentes dans la bulle et la dernière jusqu'en finale, mais c'est quelqu'un qui est sujet aux blessures. Il joue 60 matchs sur 82 cette année, donc c'est pas scandaleux. On a des joueurs qui jouent moins que ça, mais l'année d'avant 64, puis 57, 52, 58, il a toujours été sujet à des petites blessures. Et je pense aussi que la répétition de ces pépins-là, ça joue sur son corps, et ça fait que j'ai tendance à penser que quand un mec se blesse, sauf si c'est quelqu'un qui joue 82 matchs, 40 minutes tout le temps, c'était presque inévitable à un moment ou à un autre. Et plutôt que de me dire s'ils n'avaient pas joué le play-in, ils ne seraient pas blessés, j'y crois pas trop finalement. Je pense que malheureusement, son corps est affaibli et il serait peut-être blessé à un autre moment Il y a forcément aussi la faute à pas de chance. Parfois, tu retombes mal, tu prends un adversaire dans le buffet, mais c'est aussi le contexte normal d'un match, en fait.
Ça, c'est clair. Ce que je voulais dire par là, en fait, là où je trouvais que la question était intéressante, c'est qu'effectivement, si lui avait été dans une autre situation tout au long de la saison,
Ah oui.
Jimmy Butler n'aurait peut-être pas été obligé de forcer de revenir à des moments plus vite de blessures en cours de saison. Et en fait, cette année, ça a vraiment été catastrophique parce qu'entre les blessures de Tyler Herro, celles de Jimmy Butler, celles de même Caleb Martin qui avait commencé, qui était out en début de saison, ils ont vraiment enchaîné toute l'année des problèmes de santé. Alors, c'est pas le cas uniquement de Miami. Il y a d'autres équipes qui peuvent vivre ça, mais c'est vrai que le Heat, j'ai l'impression que c'était presque encore pire que les années précédentes. Et ce qui était fou, c'est que dans ce match contre Philadelphie, Miami fait vraiment un très beau match, compte jusqu'à 14 points d'avance à un moment, même avec Jimmy Butler sur un genou. Et finalement, ça se joue à 2 points. Et voilà, on va pas revenir sur la performance de Batum notamment, mais ça se joue à pas grand chose ce soir. Donc, ils jouent les Bulls qui ont eux. Complètement assuré leur match de play-in face à Atlanta. Comment est-ce que tu vois les chances de Miami dans ce contexte?
Je pense que Miami peut quand même passer parce que le reste de l'équipe, bah, malgré l'absence de Butler, malgré l'absence de Rosier, le reste de l'équipe reste compétitif. Alors là, tu l'as dit sur le match précédent, ils ont quand même tenu le choc contre Philadelphie, qui est quand même une grosse équipe. J'ai l'impression que ça peut passer. Moi, c'est plutôt sur l'objectif. Au-delà de ça, ça me paraît. C'était déjà très très compliqué de les imaginer battre Boston qui marche sur l'eau. Donc là, sans Jimmy Butler et peut-être sans d'autres joueurs, ce serait un exploit. Enfin, imagine le portrait là. Miami passe, ce qui est possible, à domicile contre Chicago. Sur un match, c'est largement faisable. Derrière, ils jouent Boston. T'imagines si ce Boston-là perd contre ce Heat-là, se fait éliminer, ce serait du jamais vu. Donc non, je pense que malheureusement, j'ai un peu tiré un trait sur la saison, sur les chances de Miami de faire un nouveau run, et c'est un peu triste. Donc je pense par contre sur le match de ce soir, vu que c'était ce que tu me demandais, je pense que le Heat a ses chances, mais je pense aussi, comme je le dis fréquemment avec cette équipe des Bulls, que leurs individualités sont assez parfaites pour faire des coups sur un match, beaucoup moins pour le faire sur une série entière de playoffs, et ils peuvent tout à fait aussi battre le Heat, encore plus un Heat diminué. Donc le match est beaucoup plus incertain que ce que j'aurais pensé à la base. Moi, enfin, dans mes pronostics, j'ai mis Miami aller au premier tour des playoffs, hein, donc forcément je les voyais. Donc ça rééquilibre les chances quelque part. Les Bulls doivent aussi être assez contents de savoir qu'Alex Caruso est pas blessé trop sérieusement. Parce qu'il s'était fait mal au match précédent, et ça leur donne aussi une arme supplémentaire s'il arrive à tenir sa place. Pour l'instant, c'était incertain, mais c'était plus positif qu'autre chose. Donc les Bulls doivent se dire qu'ils ont absolument toutes leurs chances, et ils ont raison. Et le Heat doit se dire, bah, on va au moins essayer pour la beauté du sport d'aller au premier tour des playoffs.
Franchement, Shai, si t'es Alex Caruso, t'arrives à l'entraînement aujourd'hui pour le match, tu serres la main d'André Drummond ou tu lui mets un coup de tête tout de suite là? Parce que, allez voir la blessure d'Alex Caruso, dans le genre, mon coéquipier est un énorme boulet et il a failli me blesser le plus important de la saison, j'ai rarement vu pire.
En sachant qu'il y a quoi, il y a 15 jours, même pas, il y a cette action avec Torrey Craig qui part au dunk et Drummond qui arrive derrière en pensant que l'autre il va lui faire la passe, et il
C'est
explose,
vrai.
il a deux doigts de le fracasser. Bon, ouais, Drummond n'est pas, c'est un peu parfois l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Il y a ce côté-là. Oui, heureusement, Caruso n'a pas l'air trop trop blessé, mais c'est le genre de truc qui peut agacer et provoquer des tensions dans un groupe quand il y a quelqu'un qui fait des choses comme ça, ouais.
Ouais, c'est clair. Pour le match de ce soir, j'ai l'impression que franchement, par contre, si les Bulls gagnent pas, c'est vraiment faillite monstrueuse. Parce que là, tu peux pas espérer meilleur scénario pour pouvoir accéder aux playoffs. Voilà, quelque part pour le public et les fans de Chicago, j'espère presque que c'est Chicago qui va y passer, alors que vous le savez peut-être, mais moi j'adore cette équipe de Miami. Mais là, je me dis vraiment, ça serait incroyable que Chicago arrive pas à passer cette équipe de Miami ce soir.
T'as raison, et c'est presque, si on se place d'un point de vue totalement neutre, on préférerait voir peut-être une équipe de Chicago en full force avec tous ces éléments plutôt que Miami diminué, où on se dit bon, bah ouais, c'est plié. Alors Miami, s'ils venaient affronter Boston, je pense qu'ils se battraient encore. Spoelstra trouverait le moyen de pas prendre une volée sur la série. Peut-être qu'ils arriveraient à éviter un sweep ou quoi, mais ouais, faut presque souhaiter pour les Bulls que, comme tu dis, qu'ils passent un tour, qu'ils arrivent à se qualifier pour le premier tour, même si je leur donne absolument aucune chance au premier tour aussi, hein.
Ouais, je pense que du côté de Boston, on a recommandé une deuxième tournée de Pina Colada en attendant le deuxième tour. Il y a un autre match de dernier match de play-in ce soir aussi, hein, dans la conférence Ouest. Donc match entre les Kings et les Pelicans qui seront eux privés de Zion Williamson. Comment tu vois le coup, Shai?
C'est il y a une énorme pression sur les Pelicans en fait, même sans Zion. Donc ils sont peut-être plus favoris du coup, parce que les Kings ont fait une prestation impressionnante contre les Warriors. Mais je suis déjà en train de penser au scénario catastrophe. Enfin, il y a tout ce qu'il pourrait y avoir cet été si les Pelicans ne vont encore pas en playoff. Et si du coup Zion ne joue à nouveau pas les playoffs, je suis en train d'imaginer bah voilà, Zion qui disparaît parce que ça lui est déjà arrivé. Et on ne sait pas s'il a envie d'être là. Ils vont devoir se demander si le GM est bien le bon GM, si le coach est bien le bon coach, même si je sais que toi et moi on aime bien Willie Green. Ça, est-ce que McCollum et Ingram sont les bons role-players, sont le bon supporting cast? Enfin, j'ai très peur de ce qui peut se passer. Alors que s'il y a un premier tour de playoff avec ou sans Zion, et si il y a premier tour, peut-être que Zion peut en revenir. J'ai pas la durée en tête de son absence estimée, mais donc s'il y a beaucoup de pression sur les Pelicans, quelque part les Kings ont aussi de la pression parce que eux alors ils sont pas en pleine possession de leurs moyens parce que Malik Monk n'est pas là, mais tu viens de taper les Warriors. Logiquement, et tu viens de sortir d'un premier tour de playoff la saison dernière, la saison régulière a été pas mal. C'est deux équipes qui ont une forme de pression sur l'avenir à court terme. Comment ils sont capables de se positionner dans la conférence Ouest? C'est hyper incertain. Avec Zion, j'aurais peut-être dit qu'à la maison, les Pelicans auraient pu peut-être réussir à se qualifier. Là, j'ai plus de doutes quand même.
Ouais, en fait, j'ai un peu le même sentiment pour les Kings qu'avec les Bulls. Je me dis que là, vu la situation, ils peuvent pas ne pas
Ah
le
oui.
prendre, pas prendre ce match. Moi, j'ai été déçu un peu toute la saison quand même des résultats des Kings, vu ce qu'ils avaient montré l'an dernier. Je les ai trouvés quand même trop irréguliers. Là, j'ai l'impression que hier, c'est une victoire qui est pas anodine, en fait, d'avoir sorti les Warriors. Il y a un historique, voilà, d'équipe à équipe. C'est une espèce de passage de relais peut-être potentiel, hein, même si j'imagine pas que les Kings aient le potentiel pour devenir une dynastie comme l'ont été les Warriors. Mais j'ai l'impression que là, si tu prends pas ce match-là, c'est un peu comme si tu validais pas ce que tu étais en train de montrer. Et je pense que c'est vraiment un match important pour Sacramento ce soir, au-delà du fait de simplement participer aux playoffs. Il y a un moment, je pense qu'il faut valider quand même la justesse du projet. Ce match-là, tu as raison, il y a une pression autour de New Orleans, mais je pense que les Kings peuvent pas se permettre de pas prendre ce match.
Ouais, t'as raison. Et quelque part, s'ils reproduisent le match qu'ils ont fait contre les Warriors, c'est-à-dire fort défensivement, parce que je rappelle qu'ils les ont limités à 94 points, même si c'est des Warriors en crise de confiance, tout ce qu'on veut, ils les ont limités sous les 100 points. Ils ont été efficaces. On a vu Keegan Murray toute la saison, qui était un peu. On avait l'impression qu'il stagnait un peu, alors que sa saison rookie avait été assez magnifique, et il sort un match énorme. Donc les Kings me semblent être. Ouais, t'as raison. Le scénario est bon. Il n'y a pas le meilleur joueur adverse. Ils sont pas à domicile, mais ça reste quand même jouable. C'est un match qui c'est pas là les équipes avec les plus grosses fanbases, c'est pas les médias vont pas s'enflammer forcément sur cette affiche, mais je pense qu'il y a beaucoup d'implications, ça peut avoir des répercussions parce que même si t'es les Kings, tu peux te demander bon bah on s'est pas qualifié pour les playoffs, est-ce que notre projet est viable, est-ce que De'Aaron Fox c'est bien, est-ce que le duo Fox-Sabonis vaut le coup, est-ce qu'on devrait pas essayer quelque chose? Il y aura de quoi faire des mouvements cet été. Ils ont des atouts pour faire des trades aussi, les Kings. Ils ont vraiment envie de tout chambouler, au même titre que les Pelicans. Donc c'est un match qui a plus de pression et d'intérêt en dehors même du sportif qu'il n'y paraît, je trouve.
Ouais, il faut vraiment, je pense que du côté des Pelicans, il faut que sortent les barbelés. Si leur succès potentiel passera par une défense de fer, sinon je pense que ça sera tout. Enfin, je pense que sinon les Kings ont les cartes en main. Juste, j'en profite pour le placer, mais dans le First Day Show d'hier de First Team, la palette technique justement animée par Thomas est sur Keegan Murray et son occupation, la manière dont les Kings occupent l'espace en attaque. Donc allez jeter un petit coup d'œil si vous l'avez pas fait, l'émission des amis de First Team d'hier. C'est vraiment intéressant ce qui mettait en image à ce moment-là. Shai, on avait dit qu'on parlerait de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faut qu'on y revienne. Kyrie Irving finalement n'a pas été sélectionné pour Team USA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les implications? Alors je te parle pas de Team USA, des Jeux Olympiques, je te parle pas de ces broutilles, je te parle des vraies implications de la non-qualification de Kyrie Irving avec l'équipe américaine. Je te laisse replacer le contexte.
Ouais, bah en début de saison, quand on s'interrogeait sur la composition de l'équipe américaine, parce qu'il y avait déjà les rumeurs d'une forme de un assemblage de stars potentielles qui pourraient jouer ensemble, et Moi, j'étais convaincu que Kyrie Irving, on serait à partir du moment où LeBron était pilote du projet. Et dans notre discussion, toi, tu m'avais dit, alors je suis d'accord avec la plupart de ta liste, je pense que ces joueurs-là iront, mais pour moi, Kyrie, c'est impossible. Ça te paraissait impossible parce que alors, on était sur un Kyrie qui n'était pas encore là le joueur très fiable et qui avait zéro drama autour. On était, alors, si la deuxième partie de saison avec Dallas l'année dernière, il n'y a pas eu de problème. Hein, j'exagère un peu, mais on savait pas encore si Kyrie retrouverait déjà le niveau qu'il a actuellement et s'il se passerait de drama. Et donc, toi, tu me disais, je pense qu'ils ne vont même pas l'inviter, ils ne vont même pas lui proposer. Et si jamais ils lui proposent, parce qu'avec le risque que ça comporte sur le plan géopolitique, tout ce que tu veux, parce que si un mec lui tend un micro et qu'il lui pose une question sur le conflit israélo-palestinien, sur n'importe quoi, et qu'il part en vrille, c'est pas bon pour Team USA. Toi, tu m'as dit, non, on fait un pari, je pense qu'ils même pas ils vont l'inviter. Et moi, je t'avais proposé aimablement voilà, d'animer une de nos émissions avec un maillot de l'Olympique de Marseille, floqué Chris Waddle. C'est pas passé
Absolument.
si loin, je pense que c'est pas passé si loin, parce qu'il était, bon, il était dans le groupe élargi comme 50 autres mecs, hein. Mais bah, il s'est exprimé à ce sujet d'ailleurs, hein. Il a parlé du processus de sélection, c'est pas passé si loin, mais malheureusement pour nos yeux, tu ne porteras pas de maillot de l'OM. Et la déception de Pierre Armand, j'imagine aussi quand même, le Marseillais de l'équipe, tu ne porteras pas de maillot de Chris Waddle lors d'une émission cette année.
Mais je t'avoue que j'ai quand même bien stressé. J'étais sur Vinted un petit peu regarder les maillots de Chris Waddle, ça pouvait se trouver, comment ça se passait. Non, mais effectivement, pour replacer, c'était pas sur les performances de Kyrie sur le terrain. D'ailleurs, enfin, c'est comme dans l'article que t'as publié ce matin sur Basket Session, Kyrie Irving a été très bon à Team USA. Il était MVP même de la Coupe du Monde 2014, c'est ça, si je me
C'est
trompe
ça,
pas,
ouais.
c'est ça. Donc il a été très bon. Pour moi, c'était vraiment en termes d'image. Je voyais pas Team USA et la NBA prendre le risque, vu c'est quand même un joueur qui a été suspendu par la ligue même pour différentes raisons. Voilà, je les imaginais pas prendre Kyrie Irving. Par contre, c'est vrai que j'ai encore une fois, je le dis, moi je le trouve extraordinaire avec Dallas. C'est pas un joueur dont j'ai pas forcément été fan par le passé, mais je le trouve extraordinaire. Je me suis vraiment posé la question jusqu'au bout de savoir si Team USA allait pas le prendre parce qu'il est irréprochable même depuis un an et demi à peu près. Donc voilà, effectivement, tu veux parler un petit peu de la réaction de Kyrie, peut-être ce qu'il a pu dire.
Ouais, parce que du coup, en marge du match de leur premier tour contre les Clippers, si la question lui a été posée, parce que la liste est tombée la veille de ce passage devant la presse. Et du coup, je me demandais comment il allait réagir à ça, parce qu'il était dans le groupe élargi, donc ça veut dire qu'il était disponible. Il s'était prêté porté candidat. Et il y a un peu de tout dans sa déclasse, c'est-à-dire que globalement positif, il dit je souhaite le meilleur à mes frères. Il dit j'étais simplement pas à ma place dans cette équipe. Enfin, la traduction, c'est-à-dire qu'il utilise le verbe fit, donc tu vois, il pense pas qu'il avait vraiment sa place, selon quelle considération, je ne sais pas exactement, il l'a pas précisé, mais et il remet en contexte avec le processus de sélection, il dit je pense que la délibération était difficile, et il revient sur l'époque où il fallait gagner sa place avec des essais, avec Team USA, où il y avait un groupe plus élargi, ce que souhaite notamment faire, a priori, ce que souhaitait Nicolas Batum, ce qu'il appelait de ses vœux pour l'équipe de France cet été, par exemple. Il disait, voilà, on se retrouvait en groupe, il y avait un respect mutuel, que chacun gagnait en participant aux essais pour voir quel joueur avait la meilleure connexion, etc. Et il est un peu déçu de ça et de pas avoir pu peut-être prouver sa place. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de présélection, en fait. Il y a eu 40 noms balancés des joueurs qui sont théoriquement disponibles, mais il n'y a pas eu stage à Las Vegas avec 20 mecs et on n'en garde que 12. Et là, ils ont décrété que ce serait ces 12-là, ils n'ont pas eu à concourir l'un contre l'autre. Donc voilà, bon, il n'a pas réagi de manière. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a déjà gagné les JO avec Team USA, c'est quelqu'un qui a déjà été MVP d'une Coupe du Monde. Je pense qu'il est un peu déçu parce que, pour ce qu'on évoque depuis plusieurs semaines, le côté Dream Team de 2024 ou équipe majeure d'une génération qui se regroupe, je pense qu'il est déçu. En plus, s'il regarde objectivement sur son poste, donc il y a Curry, évidemment, ça c'est compliqué à bouger, mais par exemple, tu as Tyrese Haliburton qui est plus jeune, moins expérimenté, moins fort tout simplement que Kyrie depuis ces dernières années. Et Jrue Holiday qui est un spécialiste défensif. Donc peut-être qu'il se dit, je pense qu'il peut se dire que j'avais ma place, quoi.
Ouais, c'est clair. Bon, après, voilà, faut reconnaître que les sélections pour Team USA, il y avait aussi beaucoup de choses. C'était au niveau du statut et
Bien sûr.
d'image. C'était pas non plus des camps où il y avait que les. Enfin, c'était pas Bobby Knight en 84 qui fait venir 40 joueurs et il prend que les meilleurs sans regarder les noms et les statuts. T'es juste en disant, bah, le 12 il est bon, le 6 c'est pas mal, etc. Donc bon, ça rentre en ligne de compte. Après, voilà, la sélection, de toute façon, elle est très forte, hein. Pareil, allez voir sur Basket Session si vous voulez le reste des noms. C'est finalement c'est Kawhi Leonard, si je me trompe pas, qui a pris le dernier spot qui était
Ouais,
disponible, c'est ça?
mais alors c'est pas le truc, c'est que C'était pas le 12e, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en suspens et qu'ils attendaient, ils attendaient sa réponse, mais c'était pas, ils se sont pas dit c'est forcément ces 11-là et on voit pour le prochain, tu vois. Ils voulaient absolument Kawhi, il était dans le, il
Ok.
était dans la liste. Et, mais pour Kawhi, j'avais pas trop de doute non plus parce que bah, Antoine pensait pas du tout qu'il y serait, par exemple, pour l'historique de blessure, ce que je comprends, mais et moi, le jour où j'ai vu une déclin un peu, enfin qui est passé inaperçu, mais où ils lui ont demandé et puis il avait dit bah c'est vrai que j'ai jamais joué de vraiment de campagne importante avec Team USA, donc ça, je pense que ça m'intéresserait. Là, je me suis dit pour Kawhi, qui est plutôt un peu chiant comme la pluie en conf de presse et qui se mouille pas trop sur des sujets, s'il a pas envie d'y répondre, il répond pas. Là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Donc,
En fait, il fallait traducteur ça en langage de Kawhi, ça veut dire je veux absolument aller aux Jeux Olympiques avec Team USA. Il faut juste avoir
ouais, c'est ça,
la bonne traduction.
c'est
Et
ça.
du coup, pour rester sur Team USA, il y a un joueur donc qui, sauf blessure, il sera, qui a fait parler de lui aussi hier, c'est Joel Embiid. Et parce qu'en fait, est paru, enfin, a été sorti par RMC Sport, il me semble, la lettre qui avait été envoyée par Joel Embiid par le biais de son avocat au président de la République Emmanuel Macron pour demander sa naturalisation dans l'optique de jouer avec l'équipe de France. Et bah, il y a une phrase quand même qui fait un petit peu mal, je trouve, avec le recul. Est-ce que tu peux nous la lire, Shai?
Ouais, c'est la dernière phrase de l'extrait qui est un peu sortie partout. Donc c'est en gros, donc c'est a priori c'est son avocat. Moi, je pense pas que c'est lui qui s'est dit je vais envoyer un petit mail à Emmanuel Macron. C'était des termes très, je pense que c'est ce qu'attendait la fédération et tout ça. Donc en gros, après discussion avec la fédé de basketball, mon choix est arrêté. Je souhaite engager les démarches pour obtenir une naturalisation française. On le savait déjà à l'époque et pouvoir être sélectionnable avec les Bleus. Jusque-là, pas de souci. Et c'est cette dernière phrase où il dit je ne souhaite en conséquence jouer pour aucune autre équipe nationale. Je pense que c'est ce que lui avait demandé la fédération. Hein. Je pense qu'ils lui ont demandé un courrier type et peut-être le ministère ou je ne sais quoi. Donc peut-être qu'à l'époque, il le pensait peut-être vraiment. Hein. Il s'est dit, je fais les démarches pour être sélectionnable, donc je veux être international français. Sauf que depuis, bah, il a plutôt fait des déclarations qui allaient dans le sens de j'ai trois possibilités. Je suis français, américain depuis peu aussi et camerounais. Je m'interdis rien. Voilà, donc c'était ça, c'est ça a un peu changé petit à petit. Là, ce qui est intéressant dans la façon dont est dévoilée la lettre, parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui a intérêt à se disculper de la non-présence de Kyrie, de Joel Embiid, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça montre qu'il y a un moment où il était visiblement déterminé à ne jouer que pour la France.
Ouais, après, bon, on imagine que dans la lettre qui a été envoyée aussi aux États-Unis, je sais pas comment ça se passait. Quoique là, il avait déjà travaillé suffisamment longtemps sur le sol américain, je pense, pour demander sa
Oui.
carte verte et la naturalisation. Il devait avoir la carte verte, pardon, et pour la naturalisation. Mais ça se trouve, c'était le même genre de courrier type envoyé aussi pour la sélection américaine. Voilà, c'est vrai que cette phrase-là, bon, elle fait quand même un peu, ça fait un peu grincer des dents, je peux comprendre. On va pas revenir sur tout le débat de la naturalisation potentielle de Joel Embiid, sa présence potentielle avec l'équipe de
Non, ouais,
France.
c'est
Voilà,
juste
c'est...
que tu peux toujours de c'est juste dans la trame, juste on se demande comment ça s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose qui l'a dissuadé d'être uniquement concentré sur la France? Il y en a qui ont dit que c'était le manque de soutien de la part je sais pas, des autres joueurs du pays, de la Fédé, peu importe, enfin, le manque d'enthousiasme pour sa présence. Est-ce qu'il était conscient de la possibilité de devenir américain juste avant? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a envisagé après? Bon, bah, on le saura peut-être jamais, peut-être qu'il le dira un jour. Mais du point de vue franco-français, où on commençait à imaginer Wembanyama, Embiid, Gobert, bah, c'est forcément ça. Moi, tu le sais, j'étais pas particulièrement pro Embiid en équipe de France, bah, sauf à partir du moment où il a été naturalisé. Là, je veux dire, il est sélectionnable, tu le prends. J'étais pas spécialement pour de base, mais c'est quand même c'est décevant sur le plan sportif.
Ouais, bon, bah écoutez, voilà. Allez, n'hésitez pas à aller bah, nous dire ce que vous en pensez, soit en commentaire ici, soit, je le répète encore une fois, sur Basket Session, là, la nouvelle version qui est vraiment faite pour vous permettre de prendre la parole, d'animer vous-même les sujets qui vous intéressent ou de communiquer ou d'échanger avec nous ou avec d'autres lecteurs. Chat, je te propose qu'on referme là ce CQFR. Demain, samedi, bah, il y aura le CQFR, le ce à quoi il fallait répondre avec les questions que vous nous avez envoyées. On reviendra sur le dernier match des play les derniers matchs des play-in. Et les premiers matchs des playoffs lundi matin avec un CQFR bien fat pour faire le point sur tout ce qui sera passé pendant ce week-end. D'ici là, on vous souhaite de profiter de cette période qui est la plus excitante, celle qu'on attendait toute la saison. Nous, en tout cas, on sera derrière nos écrans avec à suivre, poursuivre tout ça avec attention. On vous dit à très vite. Passez un bon week-end. Ciao.
Ciao.